Jessica Lepape, vous êtes la responsable des actions culturelles de l'Opéra du Grand Avignon et là nous venons d'assister à la présentation de La Pluie Enchantée qui sera présentée dans une version opéra participatif au mois de janvier. Opéra participatif, qu'est-ce que ça signifie déjà? Parce qu'en fait on a un ouvrage qui à la base fait 2h45 qui là va être carrément coupé d'une heure. Hein.
Alors l'opéra participatif concrètement c'est permettre au public d'obtenir les codes en fait de l'opéra et donc de chanter pendant la représentation et cette année nous avons 7 chants participatifs. Que les scolaires, puisque nous avons 4 représentations scolaires les 18 et 19 janvier prochains, et également représentation tout public. Donc en fait, les enfants vont chanter et leur famille pendant la représentation à des moments très précis. Il se rajoute à ça en fait une chorégraphie en langue des signes française qu'ils vont devoir apprendre et qui, je suppose, préparent en tout cas depuis plusieurs semaines avec leurs enseignants et aussi leur famille.
Comment se passe le choix des airs qui vont être chantés d'une manière participative? A priori, on pourrait penser que ce sont les airs des chœurs.
Alors, on les choisit aussi en fonction de la difficulté ou non. Il faut quand même que ça reste ludique.
Pas la Reine de la Nuit, par exemple?
Non, on va éviter la Reine de la Nuit. La soprano coloratour, c'est pas pour tout de suite. Voilà, le but, c'est de permettre quand même aux gens de découvrir ce que c'est que le chant, mais sans les mettre non plus en difficulté. Et ça, c'est important. Et il faut que ce soit aussi vu comme un jeu. C'est important.
Alors, il y aura la participation de spectateurs? Et puis il y a la participation de résidents dans des instituts, dans des associations très particulières. Alors lorsque arrive le projet d'opéra participatif, comment réalisez-vous votre casting? C'est-à-dire quelles sont les associations que vous sollicitez pour la production?
Alors j'ai sollicité justement plusieurs associations sur le territoire, que ce soit l'URAPEDA, donc voilà, qui œuvre justement pour les personnes sourdes, malentendantes, mais pas que. Également l'IRSAM et l'association Arc-en-Ciel qui accompagne des personnes malvoyantes et aveugles. Donc c'est sur tout le territoire que j'ai sollicité en fait les associations, leur présenter le projet. Ensuite sur la base du volontariat, parce que c'est important aussi, c'est pas que les enfants, c'est aussi d'inclure les familles dans ce dispositif-là. Et ensuite c'est au bon vouloir en fait des enfants et de leur famille de participer à ces ateliers. En tout cas pour leur permettre de découvrir l'œuvre, donc vraiment dans une dimension accessible et inclusive pour ces personnes sourdes, malvoyantes ou aveugles.
Comme lors de la conférence de presse, il y a eu la présentation de documents en braille, alors qui sont en fait des décors, des maquettes de costumes. Mmh. Ça a été réalisé spécialement pour l'opéra ou ça fait partie du spectacle?
Alors ces maquettes sont la représentation des personnages de l'opéra, mais on souhaitait vraiment que les enfants qui sont malvoyants ou aveugles puissent identifier ces personnages-là, comment ils sont habillés, le graphisme et également en braille le nom des personnages pour vraiment les familiariser avec l'œuvre qu'est La Flûte Enchantée.
C'est une ouverture vers un public qui n'est pas du tout le public des spectacles lyriques habituels. Est-ce que les amateurs de lyrique viennent dans ce type de proposition?
Oui, je pense que les amateurs de lyrique viennent quand même. Disons que là, c'est une forme réduite, si vous voulez, comme le disait Frédéric Rawls, de l'opéra. Et c'est important aussi de faire venir de nouveaux publics à l'opéra. Et la dimension ludique et participative permet cela.